ラフトレ
Bonjour et bienvenue dans Jaftamer numéro 64 sur RLP avec Stéphane Jaftamer, l'émission de l'association Équité Parentale qui milite pour la résidence alternée, l'émission consacrée à la famille contemporaine via le regard des pères d'aujourd'hui. Ce jour donc, un gros plan sur le souci de l'allocataire unique des allocations familiales en raison du code de la sécurité sociale qui établit un seul parent par enfant. C'est un problème lorsque, en cas de résidence alternée ou de résidence partagée, les allocations sont versées à un seul des deux parents. Le Conseil d'État vient de rendre un arrêt demandant la suspension de ce principe dans les cas de résidence alternée. Nous aurons donc une longue interview d'Ania Smith, de l'association Égalité des droits des parents, ainsi qu'également l'avis de Nicolas Vinto, qui est actuellement en procédure contre la CAF sur le même sujet. En témoignage de la semaine, un petit coucou de Sébastien Martin, qui nous racontera l'évolution de sa situation, un message d'espoir. Tout ceci après les actualités, une semaine très très chargée, ne bougez pas, c'est juste après ça.
Radio Libre en Périgord.
Assemblée nationale. Dans le cas des placements des enfants, l'Assemblée est unanime pour ne pas séparer les fratries. Le principe de rassemblement des frères et sœurs dans un même lieu d'accueil lorsque les enfants sont placés a été décidé par l'Assemblée nationale cette semaine lors de l'examen en première lecture d'un projet de loi de protection des enfants porté par le secrétaire d'État Adrien Taquet. Les députés ont également voté une interdiction de placement de mineurs dans des structures non spécialisées, comme des hôtels, parce que, effectivement, nous avons des situations sordides, comme a dit la députée du MoDem, Perrine Goulet, où nous retrouvons parfois des enfants, des filles de l'ASE, en fin de placement, à 16-17 ans, mis dans des hôtels à Pigalle, en leur disant « dans un an, tu te débrouilles toute seule ». C'est super, bravo à la protection de l'enfance. Donc, il ne sera plus possible de placer des enfants, de les prendre à leurs parents, pour les mettre dans des hôtels. Petit bémol, dans les situations de violence conjugale, la victime pourra exercer l'autorité parentale seule. C'est embêtant parce que nous savons que nous sommes confrontés à des problématiques de dénonciation parfois calomnieuses, d'instrumentalisation des processus de protection pour parfois se battre autour des enfants. C'est une problématique qui est assez importante et qui a malheureusement été ignorée par ce texte. Aujourd'hui, visiblement, il suffira de dire « j'ai été victime de violence conjugale » pour avoir l'autorité parentale seule et totalement exclure l'autre parent, ce qui, à notre avis, est dangereux.
RLP Radio Libre en Périgord.
Nos thèmes d'ailleurs se propagent dans la société. Voici une intervention d'Éric Zemmour qui parle d'un point qui nous semble central dans la problématique de nombreux faits divers qui sont les pères qui parfois sont privés du droit de voir leurs enfants et qui deviennent fous, qui se comportent très mal vis-à-vis des autres ou d'eux-mêmes et qui sont, à notre avis, dans l'association, à l'origine d'un grand nombre de faits divers que nous pourrions éviter. Alors, M. Zemmour dit ça à l'antenne à une heure de grande écoute, c'est intéressant. Bon, par contre, il faudra qu'il travaille encore ce sujet, car il n'a pas encore compris le rôle des pères contemporains dans la petite enfance. Il est resté bloqué sur les schémas datant de la révolution industrielle pour ce qui concerne la famille. Néanmoins, sur ce point très précisément, celui-là, nous trouvons qu'il est bon que il soit exposé à l'antenne. Voici un extrait d'une minute trente.
Ça me paraît tout à fait normal.
En général, ce sont les pères. Quand ce sont les femmes aussi, ce sont elles qui ne payent pas. Mais en général,
Les pères qui payent.
À plus de 4
ans. Je dirais quand même qu'il faudrait équilibrer cette mesure par l'obligation pour les femmes d'accepter que les pères voient leurs enfants. Il y a beaucoup de conflits à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là-dessus. Qu'il y a beaucoup de pères qui sont interdits de voir leurs enfants, qui en souffrent. C'est une des causes des vrais affrontements entre les parents divorcés. Ça ne veut pas dire que tous les pères qui ne payent pas leur pension alimentaire le font en rétorsion de cela. Parfois, c'est l'inverse. Comme ils payent pas les pensions alimentaires, les femmes disent bah c'est très bien comme ça. Tu voyais, je ne jette la pierre sur personne. Je dis que je trouve que cette bonne mesure devrait être accompagnée de l'autre, qui équilibrerait. Il y a par exemple sur les violences faites aux femmes une partie qui est directement le produit de ce conflit-là. C'est-à-dire que les pères deviennent fous parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont interdits de voir leurs enfants. Je pense que là, c'est pas facile, hein, c'est des sujets difficiles, les divorces, les gens, ils se détestent presque autant qu'ils se sont aimés, voire davantage après. C'est des moments un peu délicats pour tout le monde, j'imagine. Donc je pense que là, il a pris une bonne mesure, il devrait, si on pouvait, prendre la mesure équilibrée à l'inverse. Voilà.
RLP. Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Seb, Sébastien Martin, vous vous en venez tous, hein, on a parlé plusieurs fois ensemble, c'est un des cofondateurs d'Équité Parentale, qui est d'ailleurs au bureau de l'association. Seb, tu vas bien?
Ça va, et toi Steph?
Eh ben écoute, on survit avec ce Covid, tout ça là. Alors donne-nous un petit peu de tes news là, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe toi?
Bah moi je progresse énormément, donc... c'est pour ça que j'ai accepté ton invitation, hein, pour donner un peu de nouvelles à tous les papas qui se battent perpétuellement pour pouvoir voir leurs enfants et puis leur donner un petit peu de baume au cœur, j'espère.
Oui.
Parce que pour ceux qui connaissent un peu ma situation, voilà, j'ai eu des moments très 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 difficiles, privé de mes trois enfants et privé de boulot, sous les ponts, enfin bon, voilà, des situations catastrophiques, on va dire.
D'ailleurs, c'était compliqué. Et là, tu me dis que c'est mieux, que tu as des bonnes nouvelles.
Voilà. Depuis la crise du Covid, il me tenait à cœur de recontacter ma fille, avec laquelle je ne parlais plus depuis quasiment 5 ans, suite à une attaque au tribunal qu'elle m'avait fait. Et puis, elle a décroché. Donc, on a pas mal discuté au début de la crise du confinement, là, au mois d'avril de l'année dernière. Et puis voilà, après de très bonnes discussions d'adultes, on va dire. Mais celle-ci m'apprenait que de toute façon, elle ne parlait plus à sa mère depuis plus d'une année, qu'elle s'était rendue compte un petit peu de toute la manipulation qu'elle avait subie par sa mère. Et donc, elle avait décidé de plus y parler. Donc, elle m'a permis de reprendre mon rôle de père, quoi. Donc, pas évident.
Donc en fait, tu m'as dit qu'elle s'était rapprochée, qu'elle était plus près de chez toi, que vous voyiez régulièrement. Et
exactement.
Donc, tout à fait. Bon, c'est dommage qu'elle parle plus à sa mère. L'idéal, c'est qu'elle parle aux deux, quand même. Hein, même si.
Alors, elle reparle là à sa mère, hein, ouais. Justement, par téléphone. Bon, elle refuse de la voir parce que, voilà, elle part du principe qu'elle est néfaste pour elle, donc elle ne veut pas la voir. Mais voilà, ils sont en contact régulièrement par téléphone. Donc voilà, après oui, c'est triste que voilà, les enfants soient séparés d'un des parents, quoi.
Tout à fait. Donc là, avec vraiment, le temps, effectivement, tu as réussi à relier avec tes enfants un peu plus. Et tu m'as dit que tu as retrouvé un boulot aussi.
Oui, tout à fait. Parce que bon, il faut penser à soi, hein, dans toutes les épreuves que l'on subit. Et donc j'ai pu reprendre un travail qui me permet au moins, voilà, d'avoir une vie sociale et puis de m'en sortir aussi moralement parlant.
Avec une nouvelle compagne, t'as déménagé, enfin t'es passé par une grosse crise, un grand trou, ça a pris un peu de temps. Alors la moyenne, effectivement, est de 3 à 4 ans, hein, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Toi, ça correspond grosso modo?
Ouais, un peu plus, hein. Là, voilà, ça fait quasiment 8 ans.
D'accord, mais tu avais un grand creux, et ton grand creux, c'était il y a 8 ans, la période compliquée, ou c'était il y a 3-4 ans?
Ah, la période compliquée, c'est... on est en 21, c'est depuis 2014. Hein.
D'accord, ok.
Donc là, ça fait un an, on va dire, un an et demi, que ça va mieux.
Bon, écoute, c'est une bonne nouvelle. On espère que ça se continue. Tu es toujours président, tu es une association, c'était papa-maman séparé, je crois, sur Angers. Hein.
Oui, c'est ça. Papa-maman séparé 49. Hein.
Oui, c'est ça, tout à
là,
fait.
Voilà, on essaye de communiquer sur le fait, voilà, de laisser, de mettre au maximum les enfants chez les deux parents. Quoi, hein. La résidence alternée est pour moi une chose principale pour l'équilibre des enfants.
Ok, bon. Donc, à bientôt.
Ok, à bientôt Stéphane.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
RLP. Radio Libre en Périgord.
J'en ai marre.
RLP 102.3 aujourd'hui avec Nicolas Vinto, Nicolas que vous avez déjà entendu plusieurs fois, qui est lui aussi impliqué dans ce combat de l'allocataire unique du Code de la Sécurité sociale parce qu'il a ses enfants, je crois, à temps partiel. Tu m'avais expliqué, c'est bien ça, Nicolas ?
Oui, c'est ça. Alors, j'ai mes enfants qui vivent chez moi quasiment à temps partiel, hein, 45% du temps. Sauf que le tribunal n'a pas dit que c'était une résidence alternée. Donc, j'ai un droit de visite très élargi de quasiment la moitié du temps. Les enfants vivent chez la mère, en gros, en période scolaire, ils sont 8 jours chez la mère, 6 jours chez moi et j'ai la moitié des vacances. Donc, j'ai pas de pension alimentaire à payer, mais je dois payer la moitié des charges scolaires et extrascolaires. D'accord. Et le problème que j'ai vis-à-vis de la CAF, c'est que dans cette situation-là, ben, pour la CAF, s'il y a une résidence principale, et pas de pension alimentaire à verser, la CAF considère qu'il y a défaillance automatiquement parce que dans ses formulaires, la CAF ne peut pas noter que mes enfants sont chez moi à 45% du temps et que je paye la moitié des charges scolaires et extrascolaires. C'est donc ça, suis considéré comme un père qui s'est barré et qui a laissé ses enfants alors qu'ils sont chez moi à mi-temps quasiment.
Voilà, c'est un enfant, un parent, un seul parent. Et donc toi, tu es très très intéressé par cet arrêt du Conseil d'État qui est encore un peu flou. Hein, et tu m'as dit que tu avais une procédure en cours qui pour la rentrée.
Donc j'ai une procédure qui avance, qui est partie en appel. Hein, donc en première instance, malheureusement, le juge, je pense, n'a pas eu le courage de me donner raison parce que finalement, ce jugement que je demande implique que la CAF partage les aides en fonction de la situation réelle et non même pas en fonction d'un jugement.
Ce qui serait beaucoup plus logique d'ailleurs.
Ce serait beaucoup plus logique, mais c'est pas forcément plus simple pour les calculs de la CAF. Donc, ils vont éviter ça à tout prix. Ouais. Et c'est vrai que cette décision du Conseil d'État qui finalement dit on ne peut pas avoir d'allocataire unique en cas de séparation des parents, il faut trouver, est très intéressant parce que finalement, ça va obliger l'État à trouver une solution pour partager les aides entre les parents. Ouais. Et évidemment, donc, cette décision est très, très, très intéressante. Ça, je pense que ça va dans le bon sens. Et en tout cas, à mes yeux, ça veut dire que, clairement, les situations de discrimination d'un parent vis-à-vis de l'autre, au niveau des allocations et des aides sociales, ben, ne sont plus possibles. Donc, clairement, ma perception, c'est que si quelqu'un est dans une telle situation, ça vaut vraiment le coup de saisir la justice contre la CAF pour discrimination. Parce que, on constate qu'à un moment, que ce soit en appel ou devant la Cour de cassation ou Cour de justice européenne, la discrimination est systématiquement condamnée et donc on donne systématiquement raison aux personnes discriminées. Quoi.
D'accord. Eh bien, écoute, bonne déclaration d'intention. On va attendre qu'elle soit appliquée. Et puis, tiens-nous au courant pour ta procédure de la rentrée.
Mais je le ferai. Je te le dirai quand j'aurai le jugement.
Ok.
Je te dirai.
Ok. Merci Nicolas. Merci.
Merci beaucoup. À toi.
RLP, Radio Libre en Périgord.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Kania Smith de l'association Égalité des droits des parents. Nous allons parler aujourd'hui du problème de l'allocataire unique pour la CAF dans les cas de séparation et notamment de résidence alternée. Kania, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous.
Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer en quoi vous êtes concerné par ce problème d'allocation de la CAF qui n'est pas réparti entre les deux parents gardiens des enfants et ce que vous faites pour essayer d'arranger, d'améliorer tout cela ?
Oui, alors merci de m'avoir invité et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé et étonné en 2016. Je crois que c'était en 2016 que je me suis rendu compte du problème et même un peu avant parce que j'avais un problème avec mon ex-mari et je ne pouvais pas, j'avais plus accès au compte commun et je n'avais plus accès à l'argent enfin de la famille. Et j'étais mère au foyer. Et en fait, je pensais quand même que la CAF, l'argent de la CAF, ça revenait aux deux. Et au final, la CAF m'a dit non, vous pouvez pas créer un compte parce que vous êtes dans le même foyer. Donc, vous devez sortir.
Non, alors pour résumer, vous étiez donc mariée ?
J'étais mariée.
Avec combien d'enfants ?
5 enfants.
5 enfants, d'accord. Du même mari, du même compagnon ?
Oui, tout à fait.
Bon, on va dire qu'il y a eu une rupture de couple. Donc, vous êtes séparés, vous avez divorcé, je suppose ?
Oui, on a fini. Enfin, le divorce a fini par enfin arriver après 3 années.
Je suppose. C'est une galère. Hein, c'est une galère sans nom en France. Ça prend beaucoup de temps. Ça coûte de l'argent. C'est incroyable.
Quand j'ai pris un logement, en fait, c'était un peu à cause du fait que la CAF me disait ah, mais non, on peut pas vous considérer parent tant que vous n'êtes pas sorti du foyer. Et donc, je suis sortie du foyer. Deux mois plus tard, j'avais le temps d'aller à la CAF et leur demander qu'est-ce que, enfin, m'enregistrer et dire, ok, ben je demande une allocation de logement, je demande plein de choses. Et ils ont dit, mais c'est bizarre, vos enfants ne sont pas du tout sur votre compte, on peut pas les mettre dessus. Et ils ont trouvé que, en fait, mon ex-mari avait déclaré tout de suite qu'il avait la garde exclusive des enfants, ah, alors qu'on n'est qu'un garde alterné, sans jugement. Oui. Et ça a suffi apparemment. Parce que quand on est en conflit, de toute façon, c'était son nom sur notre compte depuis le début. Moi, j'étais née à l'étranger. Et quand je suis venue, il avait déjà un compte CAF. Il a dit, oh, ben, ça, c'est le truc français. Donc, j'ai beaucoup étudié ce que c'est les allocations de l'État. Et j'enregistrais à chaque naissance l'enfant. C'était moi qui m'occupais du compte CAF. Et en fait, quand il y a eu ce problème, j'ai découvert qu'on avait choisi lui. Et du coup, c'était le choix du couple. Et quand j'ai quitté, c'était lui qui gardait. S'il ne voulait pas le relâcher, c'était lui qui gardait ce statut d'être l'allocataire qui avait les enfants à charge et tous les enfants. Il n'y a même pas eu la possibilité de partager un enfant. Si lui ne veut pas partager même un enfant à charge, c'est son droit.
D'accord.
En 2017, j'ai eu un jugement qui me permettait d'avoir la moitié de la garde. Et ça faisait qu'on était en garde alternée 50-50. Et
pour les 5 enfants.
Pour les 5 enfants.
D'accord. Mais c'est toujours lui qui recevait des allocations familiales.
Mais c'est resté lui qui avait les allocations familiales. Et c'était même en juillet 2017 que j'avais vu la jurisprudence ou un conseil d'État qui avait dit qu'on avait attribué Il y a des choses sur l'ANIL. Donc, pour le logement, qui ont été publiés en juillet de 2017, qui parlaient du fait que la CAF était obligée de partager les allocations liées au logement. Et en fait, je me suis battue, j'ai écrit à la CAF, j'ai dit ça au moins, ça devrait être partagé, on est un garde alterné maintenant. Et ils ont dit que non, c'était que monsieur qui avait les enfants à sa charge, et donc ce n'était pas valable, et que ce n'était que de la jurisprudence, qu'eux, ils n'avaient pas de directive interne et donc ils ne pouvaient rien appliquer.
Alors, il me semble que la CAF, effectivement, dépend du Code de la Sécurité sociale et que le Code de la Sécurité sociale définit un principe qui est celui de l'allocataire unique. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, une seule personne reçoit des allocations par rapport aux enfants. C'est bien ça, hein, je ne trompe pas. Hein. Légalement, c'est bien la base sur laquelle nous sommes. Hein.
Tout à fait, c'est le R513-1. Et le L513-1, c'est loi du Code de la Sécurité sociale qui disent qu'il n'y a qu'un parent possible par enfant.
Bon. Il me semble avoir vu passer il n'y a pas longtemps un arrêt du Conseil d'État. Vous l'avez vu ?
Je pense que j'ai parcouru, mais je ne suis pas sûre d'y avoir prêté assez attention en cette fin d'année scolaire.
Oui, enfin, grosso modo, le Conseil d'État disait que le principe de locataire unique devait être rompu, devait être abandonné dans les cas de résidence alternée. C'est une bonne nouvelle d'intention. Maintenant, il va falloir changer tous les programmes informatiques.
C'est ça.
Bah oui, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas les cases pour le faire. Mais bon, je crois que vous, c'est le but de votre association aussi, de militer vers cette chose-là.
Oui, tout à fait. En fait, notre association a interpellé tous les... Donc, j'ai fait une pétition d'abord et j'ai été contactée par l'un de mes signataires qui disait je l'ai vraiment à cœur et je suis sûre que la loi peut changer. Donc, battons-nous et puis on va on va créer un site interne, enfin une page Facebook, on va faire de la communication, et il faut vraiment que ça change. Et
oui, donc, d'ailleurs, on va le dire, parce que les gens ne l'ont pas forcément entendu, votre pétition, en fait, aujourd'hui, a recueilli 37 000 signatures.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est bien cela, hein, donc d'accord, donc, ce n'est pas anodin, vous n'êtes pas deux dans un coin, c'est vraiment 37 000 personnes qui ont signé, et c'est un problème que l'on rencontre dans beaucoup de séparations, si vous voulez. Nous, enfin, nos auditeurs le savent, on parle avec la voix des pères, on a ce problème parce qu'on est confronté à ça, mais ce qu'on veut montrer, c'est que tout le monde y est confronté, en fait, y compris les mères.
Ah oui.
Il faut arriver à résoudre ce problème-là, il faut arriver à ce que, juridiquement, lorsqu'on se partage les frais d'éducation de nos enfants, que les allocations soient effectivement divisées proportionnellement également. Il faut réussir à faire ça.
Oui, j'ai l'impression que l'État, en lisant les... Il y a eu beaucoup de questions au gouvernement demandant pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la réparation des droits des parents, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est pas juste, ça va pas. Et en fait, à chaque fois, ils ont deux manières de raisonner, je pense. Donc la première manière de raisonner, c'est de dire, ah ben de toute façon, en général, ça revient aux femmes. Donc, il ne faut pas qu'on y touche parce qu'en fait, elles sont désavantagées par rapport aux hommes. C'est faux.
Ben oui.
Que ça revient aux femmes.
Vous êtes là
déjà.
Pour en parler, voilà. Et puis, en cas de raison s'alternée, c'est 50-50, par définition.
Ben, et de toute façon, qu'on soit. Si on dit ce genre de choses, c'est un peu n'importe quoi parce que normalement, la CAF, les aides sont données par rapport aux revenus. Et si, effectivement, les femmes sont moins rémunérées, ont moins de moyens. Il faut, en fonction, leur donner plus de droits. Mais si un père est à moins de moyens, il a besoin d'avoir plus de droits aussi. Et chacun doit être considéré un être social dans notre communauté, quels que soient ses revenus, mais selon ses revenus, et pas selon s'il est juste l'un des parents. Et donc, je viens à la deuxième logique que je trouve qu'ils ont, c'est que chaque enfant... Alors, ils disent, oh, mais l'enfant a touché l'argent parce que c'est arrivé à l'un de leurs parents.
Ouais.
Donc, ça a servi l'enfant. Les
Bien
intérêts
sûr.
De l'enfant sont, c'est bon. Mais c'est faux. Parce qu'un enfant ne peut pas se servir de ses propres intérêts parce qu'il dépend de l'autorité parentale qui est donnée à chacun des parents. Et en fait, en gros, l'État est en train de dire, l'autorité parentale, on s'en balance. Et l'enfant, il est roi et nous, on dit que c'est l'un des parents qui compte. Mais ça n'a pas de logique.
Lorsqu'un enfant passe 50% de son temps à un endroit, 50% à l'autre, on ne peut pas dire qu'il est sponsorisé, aidé par l'État de manière, parce qu'il est français chez un de ses deux parents et qu'il ne l'est pas chez l'autre. Il n'y a absolument aucun sens. Ça ne tient pas debout.
Non, pas du tout. Mais du coup, ça affecte toutes les prestations CAF. Ça affecte le RSA, la prime
d'activité.
Ça affecte même... Alors, j'ai rigolé, mais même en garde alternée, on a le droit de demander l'ASF, donc l'allocation soutien familial, une compensation, un complément à une faible pension alimentaire. Et donc, moi, j'ai une pension alimentaire parce que je ne gagne pas du tout autant que mon ex-mari. Et on me le refuse. Parce que c'est lui qui a les enfants à charge selon la CAF. Donc, même si c'est moi qui ai la pension, c'est que lui qui a le droit de demander l'ASF, mais il n'a pas de pension. Donc, il ne le demandera pas. Donc, les enfants n'ont pas cet argent. Ils estiment que c'est de l'argent qui appartient aux enfants, mais justement, les enfants n'ont pas cet argent dans le système dans lequel ils nous laissent rester.
D'accord. Effectivement.
Il en faut de parents.
Vous avez des actions dans votre association? Vous avez mené des actions? Vous avez dit que vous avez écrit à beaucoup d'élus, vous avez monté une pétition, vous avez poussé d'autres choses?
Alors, on a parlé avec des étudiants en études sociales pour une thèse. Je crois que c'était pour une thèse. On a écrit à tous les députés et tous les groupes, tout le monde en fait qui est élu.
Vous avez fait un petit dossier où il a envoyé à tous les députés. C'est ça. D'accord. Il a répondu. Ouais.
Alors le président de la République, j'écris à lui, mais en fait c'est venu.
Vous avez écrit à Monsieur Hollande ou Monsieur Macron?
Monsieur Macron.
D'accord.
Oui, c'est Monsieur Macron. Et en fait, de toute façon, apparemment, il y a un tri qui est fait. Et la personne qui m'a répondu était la directrice de la CAF de mon département.
D'accord. Donc en fait, ça a été redirigé. D'accord. C'est pas l'Élysée qui vous a répondu. Et vous a répondu quoi?
Que désolé, c'est comme ça, mais c'est pas autrement. Et donc du coup, désolé. Mais par contre, on m'a donné. C'est que là que j'ai trouvé que c'était la directrice de la CAF qui m'a écrit « Vous pouvez saisir le pôle social du tribunal à l'époque de grande instance et demander à ce que les choses soient échangées chaque année. » Enfin, que l'allocataire change chaque année.
Oui, alors ça, c'est la grande réponse de la CAF. Ils nous disent « Écoutez, vu qu'il y a résidence alternée, eh bien, il faut changer les enfants d'allocataire chaque année. » C'est-à-dire qu'une année, ce sera papa qui recevra des allocations, puis l'année d'après, ce sera maman. Et puis, enfin bon, ça ne tient pas compte du tout des aléas de la vie. La vie n'est pas linéaire. Hein. Les déclarations sont trimestrielles. Ça ne tient pas du tout.
Non. Mais ça revient au problème. Je comprends pourquoi ils font ça. Et c'est parce que, selon la loi qui les dirige, il n'y a qu'un parent par enfant. Du coup, leur système informatique est comme ça. Ils ne peuvent pas mettre de parents dessus. Et ils sont obligés de venir intervenir par forçage chaque mois sur une famille où on considère qu'il y a deux parents. S'ils sont obligés. Donc, du coup, j'ai saisi le pôle social. J'avais un avocat, mon ex-mari est venu avec son avocat qu'il a payé. Moi, j'ai été avec l'aide juridictionnelle, il a dû payer son avocat pour garder le droit d'avoir la totalité des aides. C'est quand même fort. Je pense que même juste par ça, la CAF et le juge devraient se dire quand même, ce monsieur, est-ce qu'il a intérêt ses enfants ou sa poche? Mais bon, ils n'ont pas fait cette réflexion. Et il y a eu par contre un jugement qui n'a pas été rétroactif parce que apparemment, ce serait le tribunal administratif qui pourrait faire de la rétroactivité, mais ce qu'ils me demandaient de faire, je ne pouvais pas leur fournir, donc je laisse y tomber. Et on a dit, à partir du mois prochain, madame, la CAF est obligée de vous considérer pour votre situation réelle par rapport à telle prestation. Donc, c'était toutes celles qu'on avait nommées. Le seul problème, c'est que même avec ce jugement, il a fallu que j'avertisse la CAF qu'il y a eu ce jugement. Il a fallu que je leur fournisse le jugement, alors qu'ils étaient quand même l'autre partie. Ils avaient reçu le jugement dans leur service, c'est sûr. Donc, j'ai dû les informer. Et même en les informant, ils disaient « Mais de toute façon, les enfants sont toujours sur le compte de monsieur, donc vous ne pouvez pas avoir telle prestation, parce que nous, on ne dépend pas de ceci ou cela. » Et donc, pour l'ASF, par exemple, je n'ai toujours pas... j'ai rien.
D'accord. Bon.
Je pense que vraiment, il y a une grosse nécessité que quelqu'un qui a à cœur d'écrire des lois et d'écrire des lois justes réécrive cette loi sur l'unicité de l'allocataire. Il faut vraiment l'annuler et la remplacer. Et il faut vraiment que ça disparaisse et que les adultes soient reconnus pour leur autorité parentale et selon leur autorité parentale et pas selon si c'est juste le premier qui est venu inscrire leur enfant à la CAF.
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est une loi qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Et nous espérons que cet avis du Conseil d'État, qu'il va falloir essayer de diffuser au maximum, moi j'encourage les gens, ceux qui nous écoutent, qui sont confrontés à votre problématique, à aller le chercher sur Internet, on le trouve assez facilement, à l'imprimer, et puis à l'envoyer à toutes les CAF pour faire pression afin qu'ils modifient leur logiciel informatique et que tous ces non-sens s'arrêtent. Parce que nous savons que dans les conflits familiaux, une grande partie des difficultés et des crispations se font autour des enfants et de l'argent associé aux enfants. C'est comme ça. C'est la nature humaine, c'est malheureusement là-dessus que les gens s'étripent. Il faut automatiser. Il faut automatiser pour que ces calculs soient proportionnés directement. Et comme vous le dites, ce n'est pas le premier arrivé, premier servi. C'est vraiment en fonction de l'implication du temps. Vous avez 50-50, mais moi je connais des parents qui ont 60-40 ou 70-30. Il faut, ça me paraît absolument normal d'équilibrer le soutien de l'enfant en fonction de ces deux environnements. L'environnement de l'enfant change d'une semaine à l'autre, il faut donc lisser tout cela. Et les enfants sont français, dépendent du droit français, et devraient effectivement, ça devrait être fait. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que tout ceci avancera et que votre travail, de toute façon, votre travail nous est déjà utile à tous. Et j'espère qu'il aboutira le plus vite possible.
Ben, merci à vous pour votre émission et puis pour tout ce que vous faites aussi pour les papas. Et merci de m'avoir invité.
Merci, madame. Au revoir.
Au revoir.